Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Suivez Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.
Priorité Santé, pour nous les femmes.
Notre santé d'abord.
C'est notre priorité. Oui à la santé, non au tabou.
Priorité Santé, question de femmes.
Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Certaines maladies chroniques concernent davantage les femmes que les hommes et inversement. Lorsque l'on parle du diabète, évidemment, chacun, chacune peut être concerné en fonction de son hérédité, de ses habitudes de vie, de son alimentation. Mais pour les femmes, la maladie métabolique peut présenter des caractéristiques particulières en lien avec l'activité hormonale, la grossesse ou la contraception. Au cours de cette émission, nous allons donc parler du diabète gestationnel, mais aussi du suivi de la grossesse pour les femmes déjà diagnostiquées et prises en charge pour un diabète avant la concrétisation de leur projet d'enfant. Nous évoquerons les modifications hormonales liées au cycle menstruel qui peuvent perturber l'équilibre du taux de glycémie, le diabète qui peut également avoir une incidence sur le confort sexuel, et les femmes concernées peuvent être plus vulnérables à certaines infections qui peuvent aussi toucher la sphère urogénitale. Tenir compte de certaines contre-indications particulières également, et puis quand vient le temps de la ménopause, là encore, toujours veiller à l'équilibre, adapter le traitement. Dans tous ces cas, l'objectif pour toutes, contrôler son diabète. Et aujourd'hui encore, vous avez la parole avec une spécialiste à votre écoute pour répondre à toutes vos questions. Traitement du diabète, éviter les complications liées au diabète gestationnel, recommandations en termes d'activité physique, autant de questions que nous allons donc aborder avec vous. Professeur Maïmouna Ndourmbaï, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes chef du service de médecine interne de l'hôpital Abbas Ndao, directrice du centre du diabète Marc Sankalé au Sénégal, et vous vous trouvez en ce moment dans les locaux de RFI Dakar en full day mandinkan, dont on remercie bien sûr toute l'équipe pour son accueil.
Notre santé, si on en parlait.
Professeur Maïmouna Ndourmbaï, diabète au féminin, évidemment, il va être question de la prise en charge particulière pour les femmes souffrant de diabète et qui ont un projet d'enfant, avec des explications en particulier sur ce fameux diabète gestationnel, certains changements qui peuvent aussi s'opérer au moment de la ménopause. Mais il y a un point commun entre tous ces sujets, c'est le rôle que peut jouer l'activité hormonale sur le contrôle du diabète.
Exactement, Caroline. Les femmes sont sujettes à des variations hormonales qui influencent l'évolution de la glycémie. Et notamment pendant la grossesse, il y a des variations de la glycémie en hypo, en hyper, puis encore en hypoglycémie, qui vont donc impacter sur l'équilibre métabolique général et qu'il faut donc prendre en considération chez toutes ces femmes, précisément pendant la grossesse, parce que effectivement, ça peut influencer sur la santé de la mère et de l'enfant.
Alors, quand on parle grossesse et diabète, professeur Ndourmbaï, il faut bien distinguer des choses, hein. D'un côté, le suivi d'une femme traitée pour son diabète lorsqu'elle est enceinte, et puis de l'autre, un dérèglement propre à cette période, la survenue d'un diabète gestationnel chez une future mère qui, avant de tomber enceinte, eh bien, avait une glycémie, on peut dire, normale.
Exactement. Il faut différencier ces deux entités. D'abord, le diabète qui préexistait avant la grossesse. Ce diabète est dit diabète pré-gestationnel. Il peut s'agir d'un diabète de type 1 ou de type 2 qui était connu donc avant le début de la grossesse. Et dans ce cas, on dit qu'il s'agit d'une grossesse survenue chez une femme diabétique. Il peut aussi s'agir d'un diabète de type 2 qui est découvert au cours de la grossesse alors qu'il était là, mais qu'il était méconnu. Et dans ce cas, il va persister après l'accouchement. La deuxième entité, c'est le diabète gestationnel. Ce diabète gestationnel est diagnostiqué pour la première fois au cours de la grossesse chez une femme qui n'était pas connu diabétique. Et il ne s'agissait même pas d'un diabète méconnu. Et le diagnostic généralement est posé entre la 24e et la 28e semaine. Et ce diabète gestationnel se différencie du vrai diabète de type 2 dans la mesure où il est généralement transitoire. Il apparaît pendant la grossesse, disparaît après l'accouchement. Il a tendance quand même à se renouveler lors des grossesses ultérieures et peut, dans l'évolution, se transformer en véritable diabète de type 2.
Est-ce qu'il y a un suivi spécial pour les femmes diabétiques qui tombent enceintes? Est-ce qu'on va dire qu'il va falloir peut-être davantage de contrôles, davantage de visites, etc.?
Absolument. Le suivi est fondamental. Parce que lorsqu'une femme diabétique tombe enceinte, il faut régulièrement surveiller la glycémie pour éviter toutes les complications, à la fois pour la mère et pour l'enfant. Donc, généralement, il est préférable, même chez ces femmes qui sont connues diabétiques, de faire une consultation préconceptionnelle. On les encourage beaucoup à planifier la grossesse, à se rapprocher de leur diabétologue pour que cette grossesse survienne en période de parfait équilibre. Ensuite, pendant la grossesse, le suivi est plus rapproché que pour une femme non diabétique. Au lieu d'une consultation trimestrielle, nous recommandons une consultation mensuelle, à la fois par le gynécologue obstétricien et par le diabétologue. Tout ceci pour s'assurer de l'absence de complications. Il est fondamental de toujours bien équilibrer la glycémie tout au long de la grossesse. Et ceci peut s'obtenir avec des mesures hygiéno-diététiques seules ou on peut avoir recours à des médicaments.
Le diabète chez les femmes en dehors de ces périodes de grossesse. Alors, est-ce qu'il peut y avoir, professeur, des contre-indications particulières dans le domaine de la contraception, par exemple ?
Effectivement, toutes les contraceptions, a priori, sont possibles chez les diabétiques, mais il y en a qui ne sont pas préférables. Par exemple, toutes les contraceptions à base d'œstroprogestatifs peuvent augmenter le risque de faire des complications cardiovasculaires. Les contraceptions diffèrent entre elles dans leur efficacité. Par exemple, on sait bien que les contraceptions à base de spermicides ne donneront pas une efficacité aussi importante qu'un stérilet à base de cuivre, par exemple. Mais tout ceci est à décider avec le gynécologue obstétricien qui choisira la meilleure contraception en fonction du profil de la patiente.
Il y a la période de la ménopause aussi qui est particulière. Est-ce qu'à ce moment de la vie des femmes, les choses peuvent changer en matière de diabète ?
Exactement. D'abord parce que la ménopause survient à un âge avancé. Et on sait que l'âge est un facteur non seulement qui va prédisposer à la survenue du diabète, mais aussi à d'autres maladies cardiovasculaires telles que l'hypertension artérielle, telles que les dyslipidémies, sans parler du vieillissement naturel des artères. Et au niveau de la ménopause, comme on le sait toutes, il y a également des changements hormonaux. Il y a des phénomènes d'ostéoporose et tout ceci peut influencer sur l'équilibre glycémique. Généralement, il est démontré que le risque de faire une complication vasculaire augmente chez les femmes après la ménopause et devient même égal à celui des hommes. Parce que les femmes sont quelque peu protégées par leurs hormones jusqu'à la ménopause, ce qui explique qu'elles font moins d'accidents cardiovasculaires en étant jeunes par rapport aux hommes. Mais à partir de la ménopause, du fait de ces changements hormonaux, le risque vasculaire augmente.
Alors, il y a quelque chose d'important parce que ça pourrait créer des confusions au cours de cette émission. Quand on parle de la glycémie, il peut y avoir deux indices différents en fonction de l'unité de mesure. Généralement, on parle en grammes par litre, ce qui fait que dans ce cas-là, professeur Maimouna Ndoumbaye, à partir de quel indice est-ce qu'on considère que la personne est atteinte de diabète ?
Quand on parle de grammes par litre, et ça c'est l'unité de mesure que nous utilisons ici au Sénégal, le diabète est déclaré à partir de 1,26 grammes par litre lorsqu'on mesure la glycémie à jeun, c'est-à-dire après 8 à maximum 12 heures de jeun. Quand on mesure la glycémie et qu'elle est supérieure ou égale à 1,26 grammes par litre, ceci permet de poser le diagnostic du diabète.
Bien et sûr. Comme on est une radio internationale, on va avoir d'autres auditeurs qui ne sont pas forcément au Sénégal. Et là, il y a un calcul en millimoles par litre. Évidemment, les indices sont numériquement plus élevés. Il ne faut pas confondre les deux, hein.
Absolument, et on peut facilement se rendre sur Internet et puis faire la conversion automatiquement en millimoles par litre.
On fera bien la distinction au cours de l'émission afin de ne pas brouiller les esprits. Tout de suite, nos premiers témoignages. C'est le moment de notre palabre féminin enregistré cette semaine au sein de la maison apaisante Igik Igikali, oui, c'est bien ça, Ivry-sur-Seine, en région parisienne, où l'association Ikambere propose un accompagnement à des femmes en situation de précarité qui souffrent de maladies chroniques comme le diabète, l'obésité ou encore l'hypertension artérielle. Elles sont trois bénéficiaires au micro de Charlie Dupio. Alice a 62 ans, Awa 66 ans, Émilie 52 ans. Et c'est Alice qui entame la discussion.
Je vis avec le diabète depuis le mois de juin 2020. J'avais souvent de la nausée, j'avais le vertige. Et puis, disons que je marchais même de travers. C'est comme si j'allais tomber. Le médecin généraliste m'a dit, il faut qu'on fasse un bilan sanguin pour voir de quoi vous souffrez. D'abord, il a commencé par les urines. Quand il a fait le test, il a vu que vraiment c'était du diabète. Il dit, on va vous hospitaliser. On vous emmène directement aux urgences. Vous ne rentrez pas comme ça chez vous. Donc là, je faisais déjà 4 grammes de diabète. Donc je suis restée aux urgences jusqu'à 2 heures du matin et le médecin m'a prescrit des médicaments.
Ce que moi je voudrais savoir, c'est sous médicaments seulement que tu as traité, il n'y a pas eu de diététicien au niveau de l'hôpital pour prescrire une alimentation aussi qui va aider les produits chimiques que tu prends?
Oui, effectivement, il y a une diététicienne qui m'accompagnait à l'hôpital. Donc, il y a un régime alimentaire vraiment très strict qu'il faut respecter. Disons, une alimentation très équilibrée. Voilà. Donc, moi, je consommais beaucoup de sucre, ça, il faut le dire. Le sucre classique, je consommais ça beaucoup. Donc là, le matin, je prenais plus maintenant du tout ce qui est sucré. Je prenais du café, mais sans sucre. Et je prenais aussi, je prends, parce que je continue toujours de le faire, je prends maintenant du pain complet. Je prends aussi des fruits, mais le diabétique doit prendre 2 fruits au maximum par jour. Mon diabète était tellement élevé que j'ai commencé à avoir peur, donc je prends un seul fruit par jour. Sinon, c'est conseillé 2 fruits.
Je vis avec le diabète depuis 2 ans. Je ne me sentais pas bien et puis j'étais tout le temps bizarre. Je me suis dit que c'est le palu, je suis allée. On m'a donné les médicaments de palu.
C'était en Afrique ou bien ici en Europe?
En Afrique. Abidjan, à Côte d'Ivoire. On m'a donné les médicaments de palu. Ça m'a soulagée un tout petit peu. Après, ça a repris. Et là, on m'a dit, il faut faire un bilan. Ils ont vu que le taux de glycémie était peu élevé. Le gars a dit, tu as le diabète, mais fais attention pour ne pas que ça évolue. Je suis allée, ils m'ont montré comment il faut se nourrir et tout et tout. On me dit, il faut faire une entrée, il faut manger moins de riz, il faut manger moins de foutou, du pain. Il faut mesurer. Et quand on mesure, vraiment, ça ne m'arrange pas.
Mais tu peux compléter aussi avec les légumes, pas uniquement le riz.
Quand on t'a dit qu'on n'a rien, toi tu parles des
légumes. Tu connais les moyens de se nourrir en Afrique.
C'est moins cher quand même, les légumes.
Non, Alice, tu prends une carotte comme ça, on te dit 200 francs. En Côte d'Ivoire, 200 francs, tu connais 30 centimes ici. Tu ne peux pas.
J'ai tenu au moins près de 2 semaines après. J'ai dit, mais si je veux faire ça là, où est l'argent? Ça c'est 1. 2, j'ai faim. Il faut que je mange. Donc, j'ai commencé à déraper.
Comment tu t'en es sorti finalement? Puisque tu as dérapé d'après toi-même, comment tu t'es arrangé pour ne pas que la situation, ta santé s'aggrave?
J'ai essayé de m'adapter. J'ai essayé de forcer parce que je me suis dit qu'il y a ma vie aussi qui compte. Si je continue à déraper, ce ne serait pas bon pour moi.
J'ai une prise en charge.
Oui. J'ai une prise en charge, plus des médicaments.
Donc, du jour aujourd'hui, comment est-ce que vous vous sentez quand même?
Aujourd'hui, je crois que mon diabète est vraiment équilibré parce qu'à côté de la prise des médicaments, je fais aussi du sport. Voilà, je fais du sport adapté, je fais le yoga, je fais, disons, 3 fois le sport dans la semaine.
Ah, mes félicitations, mais le médecin ne dis pas que ça peut finir complètement, le diabète. Est-ce que
le diabète ça se soigne, mais ça ne guérit pas. Je dis, il y a une expression en Côte d'Ivoire qui dit « Oh, les cœurs hein. !» Chez moi, je vis et puis je suis à l'aise, il n'y a pas de souci. Je ne me dis pas que oui, ben, de toute façon, je suis fatiguée de prendre les médicaments, je vais abandonner. Non. C'est-à-dire que vraiment, comme on le dit aussi, découragement n'est pas ivoirien. C'est-à-dire que malgré les difficultés, on tient bon.
Il faut rouler le cœur en face de l'ennemi, vous voyez.
Le diabète est vraiment l'ennemi, donc vraiment, il faut tenir bon.
Trois combattantes, hein, professeur Ndourmbaï, bien déterminée, changer ses habitudes, faire du sport, s'adapter, être prise en charge et ne pas lâcher. On peut dire qu'elles ont les bonnes réactions, ces dames.
Ah, discussion très 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 intéressante, effectivement.
Alors une première auditrice tout de suite en ligne avec nous. On va rejoindre tout de suite Madagascar.
Antananarive, 96 FM.
Une première auditrice en ligne, c'est vous, Andy. Bonjour Andy.
Bonjour Caroline Tari, bonjour aux invités.
Alors vous nous appelez au sujet de la santé de votre tante qui est âgée de 57 ans. Elle est donc atteinte de diabète. Alors du côté de sa prise en charge, médicaments et alimentation, comment est-ce que ça se passe?
Au niveau alimentation, elle n'a pas changé grand-chose puisqu'elle est déjà assurée avec les médicaments que le médecin lui a donnés. Elle est au courant, elle se rend compte qu'il faut arrêter avec le riz parce que le riz c'est le sucre et aussi avec les pommes de terre. Mais le problème c'est qu'elle ne peut pas arrêter de consommer le riz sur les pommes de terre parce qu'elle déteste presque tous les légumes, à part les pommes de terre bien sûr, et les carottes. Et c'est un peu ça le problème. Et elle est juste rassurée parce qu'elle prend un médicament tous les jours, alors que ça ne passe pas vraiment. On ne sait pas quel est le stade de son diabète.
Comment ça, quel est le stade de son diabète? Elle ne contrôle pas régulièrement sa glycémie?
Et étant donné qu'elle est à la campagne, il n'y a pas de matériel convenable pour contrôler cela. On le sait que vous êtes diabétique et il faut que...
Mais pour poser ce diagnostic, il a quand même fallu faire un test. J'imagine, elle a passé quand même des examens. On lui a fait des prélèvements pour savoir si elle était, oui ou non, dans les normes au niveau du taux de sucre.
Oui, mais ça date longtemps et elle a juste l'habitude de prendre le médicament. En fait, sa consultation se fait par des appels téléphoniques avec le médecin, puis elle dit à la campagne.
Et elle n'a pas quand même, on va dire une fois par an, un contrôle pour un petit peu voir comment ça va?
Je pense qu'il n'y a pas de contrôle parce que là où elle vit, c'est trop loin de la ville. Et avec la qualité de la route ici aussi, ça empêche un peu sa motivation de joindre un médecin qui est convenable.
Oui, donc c'est compliqué du côté du suivi médical. C'est aussi compliqué par rapport à ses habitudes alimentaires. Professeur Maïmouna Ndourmbaï, on voit bien dans ce contexte, hein, Madagascar, c'est vraiment difficile de suivre l'attente de notre auditrice. Elle prend des médicaments déjà et non de l'insuline. C'est important de le dire, hein. L'insuline, ce n'est pas systématique, ce n'est pas automatique lorsqu'on est concerné par le diabète.
L'insuline n'est pas automatique quand on est concerné par le diabète de type 2.
Mmh.
Le diabète de type 2 est un diabète qui survient généralement à l'âge adulte, passé 30-40 ans, disons. Et c'est ce diabète qu'on appelait autrefois le diabète non insulinodépendant, pour la simple raison que le patient n'avait pas immédiatement besoin d'insuline pour vivre, contrairement au diabète de type 1, qui survient, lui, chez les enfants et les adolescents et qui est dû à une absence totale de sécrétion d'insuline par le pancréas. Dans le diabète de type 2, le pancréas continue à sécréter de l'insuline, mais cette insuline n'agit pas bien. Donc, il faut des médicaments au début de ce diabète, mais ces diabétiques, au cours de leur évolution, au cours de 10-20 ans d'évolution généralement, peuvent nécessiter le recours à l'insuline ou au cours de facteurs intercurrents tels qu'un paludisme, une maladie aiguë qui élève la glycémie et on a besoin de mettre de l'insuline de manière transitoire. Donc on peut mettre de l'insuline de manière transitoire chez le diabétique de type 2 parce que la glycémie est élevée ou alors de manière définitive mais généralement plus tard dans l'évolution de ce diabète quand les médicaments seuls ne suffisent pas à assurer l'équilibre glycémique.
En tout cas, ce qu'on voit dans le contexte, hein, l'histoire, la vie de la tante de notre auditrice, eh bien, c'est que finalement, il y a un accès extrêmement limité aux médecins, au test, ça veut dire, professeur Ndoumbaï, que c'est très compliqué de suivre l'évolution de ce diabète.
Absolument, c'est un des facteurs limitants que l'on voit malheureusement beaucoup dans les pays en voie de développement où il n'y a pas assez de spécialistes, pas assez de médecins tout court, de professionnels de santé et pas assez d'accès aux outils de surveillance de la glycémie. C'est malheureux, mais il faut que ces personnes apprennent, si elles n'ont pas d'appareil pour tester leur glycémie, au moins qu'elles suivent régulièrement les conseils à la fois diététiques et puis les prescriptions médicamenteuses, et puis qu'elles surveillent les signes qui peuvent traduire une élévation de la glycémie ou à l'inverse, une baisse trop importante de cette glycémie.
Et on entend que la tante de notre auditrice Andy consomme beaucoup de riz. Qu'est-ce qu'on peut dire sur en fait ce mariage entre riz et diabète ?
Le riz est en effet l'un des aliments de base dans de nombreuses cultures. Dans le cas du diabète, il est important que ce qu'il faut contrôler, c'est la consommation de glucides, car ça va augmenter la glycémie. Le riz ne contient pas de sucre en tant que tel, et il n'a même pas de goût sucré à la bouche, mais il contient un autre type de glucides qu'on appelle l'amidon. Et lorsque l'amidon est digéré, il est dégradé, il est décomposé en glucose qui va être libéré dans le sang. Ça veut dire que manger du riz va déclencher le même mécanisme qu'un aliment sucré, même s'il n'en a pas le goût. Donc la consommation de riz peut influencer le niveau de la glycémie. Mais cela ne signifie pas que les diabétiques ne peuvent pas manger du riz. Il faut juste dire que le riz doit être consommé avec modération. Il faut des légumes et il faut des protéines également.
Alors, des légumes, et ça c'est important, on va le dire au cours de cette émission, une alimentation très équilibrée. Voilà pour ces réponses. Merci beaucoup Andy pour votre appel. Et vous nous faites partager une chanson maintenant puisque vous êtes notre première programmatrice musicale du jour. Ce titre c'est « On finira peut-être heureux ». Il est signé « Choose the Kid ». Et on se retrouve juste après, professeur Ndoumbaï, avec d'autres questions d'auditrices.
Dis-moi à combien de nuits tu m'appelais X sans me dire un mot. J'avance en garde avec du style, aviateur teinte, un peu comme un film. Animal sauvage, je me sens libre, là je me sens loin. J'oublie que t'existes, si tout le monde est parti. La fête des terrains, c'est pour tuer l'ennui. Je t'ai invité à danser. Le premier pas, c'est le plus difficile. La porte est ouverte, qui sait où on finira peut-être heureux. Là t'as bien vu ton ennemi, c'était ton miroir, bitch, c'était pas les autres. Combien de nuits où tu m'appelais Yves sans me dire un mot. Ouais, on finira peut-être heureux. Donnez-moi du paper, donnez-moi des vrais frères, donnez-moi tes guerriers Maasai. Dominer le secteur, inonder les plateformes, ils n'ont pas connu les montagnes. Si haute comme l'Himalaya, qu'on a dû monter en commençant de tout en bas. Ouais ma belle, c'est haut comme l'Himalaya. Tout le monde est parti, la fête des terrains, c'est pour tuer l'ennui. Je t'ai invité à danser. Le premier pas, c'est le plus difficile. La porte est ouverte, qui sait où on finira peut-être heureux. Là, t'as bien vu ton ennemi, c'était ton miroir, bitch, c'était pas les autres. On finira peut-être heureux. Dis-moi à combien de nuits où tu m'appelais Yves sans me dire un mot.
Priorité santé sur RFI, émission Question de femmes. On parle du diabète au féminin, diabète gestationnel, variations hormonales, contre-indications. On est toujours avec le professeur Maïmouna Ndoumbaï, chef du service de médecine interne de l'hôpital Abbas Ndao qui se trouve dans les locaux de RFI Dakar en full des Mandakan, avec une nouvelle question d'auditrice. On part pour la Côte d'Ivoire.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
Chloé qui a enregistré ce message, le répondeur de l'émission, on l'écoute tout de suite.
Bonjour Priorité Santé, je suis Chloé d'Abidjan, j'ai 38 ans, étant fille d'une personne diabétique, ayant 38 ans, 40 ans, c'est pas bien loin. J'aimerais savoir quelle est l'hygiène de vie à adopter. Parce que aussi, je suis une personne qui est très portée vers tout ce qui est sucré. Quand je parle de sucre, je parle de bonbons, je parle de jus, je parle de gâteaux, je parle de tout ce qui est sucré. Et la deuxième question, ce serait de savoir quelle hygiène de vie en termes de sport, en termes de pratique sportive, le docteur recommanderait et sur quelle fréquence. Deuxième volet relativement à mon père, c'est que mon père est une personne du troisième âge, on va dire 79 ans, 80 ans par là. Et depuis un peu plus de 10 ans, il est insulino-dépendant. Donc il arrive qu'il nous fasse des pics de glycémie de 4, 5, 6, ça oscille. Mais très souvent, c'est au-dessus de 2 ou 3. Et depuis ces pics-là, il n'a jamais eu affaire de coma diabétique. Mais la seule chose qu'on a eu à remarquer depuis près de plus de 5 ans, un peu plus de 5 ans, c'est qu'il tremble de la main droite. Un peu comme si, bon, de façon novice, on dirait que les dégâts collatéraux de ces pics ont eu raison de sa main droite. J'aimerais bien que le docteur puisse nous expliquer cela. Merci et bonne émission.
Alors, professeur Maïmouna Ndourmbaye, beaucoup de choses dans le message de Chloé d'Abidjan. D'abord, elle s'inquiète pour sa propre santé parce que son papa est diabétique, parce qu'elle a le bec sucré, comme on dit, elle mange beaucoup de sucre. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire ?
Les inquiétudes de Chloé sont légitimes. L'hérédité fait partie de ce qu'on appelle des facteurs de risque de développer le diabète. C'est un facteur de risque qui est dit non modifiable, puisqu'on ne peut pas changer son hérédité. Un autre facteur de risque non modifiable, c'est l'âge. Effectivement, plus on avance en âge, plus on a des risques de développer la maladie. Et Chloé déclare qu'elle est à 38 ans, ce qui est l'âge, effectivement, où s'installe ce type de maladie chronique, que ce soit le diabète, l'hypertension et autres. Il y a d'autres facteurs qui sont, eux, dits modifiables. Ce sont en particulier l'alimentation, c'est l'activité physique, c'est le surpoids et l'obésité. En termes d'alimentation, il faut limiter la consommation d'aliments sucrés et d'hydrates de carbone raffinés, ce que je conseillerais vivement à Chloé, les sodas, les gâteaux, les bonbons, surtout les aliments transformés et riches en sucre. Il faut plutôt privilégier les aliments riches en fibres, tels que les fruits, les légumes, les céréales complètes. Cette alimentation doit être diversifiée et équilibrée.
Professeur Chloé qui explique aussi que son père a un diabète qui n'est pas forcément équilibré. Là, on a vu encore une fois, avec quand elle dit un pic de glycémie à 6, c'est parce qu'elle cite l'indice, j'imagine, en millimoles. On en parlait tout à l'heure. Est-ce que les tremblements dont parle Chloé au sujet de son papa, ça peut être lié à ce diabète ou on ne peut pas le savoir?
Alors, c'est difficile à savoir. Les tremblements dans la main de son père pourraient avoir différentes causes. Il est possible que les fluctuations du taux de glycémie jouent un rôle. Mais d'autres facteurs peuvent également contribuer à cela. Et ça, il est fondamental que ce patient soit examiné.
On le comprend bien. Alors, on a essayé de joindre Myriam à Nouakchott en Mauritanie pour l'instant. Ça ne passe pas, je suis donc sa porte-parole. Elle a 34 ans, Myriam. Elle a fait une fausse couche assez récente. Ça remonte à 2 semaines. On venait juste de lui diagnostiquer un diabète gestationnel. 3e grossesse, il n'y avait pas eu de problème pour les 2 précédents enfants qui étaient donc nés en pleine forme. Elle a donc fait ce contrôle. Elle a perdu le fœtus, glycémie à 0,98. Et en fait, Myriam est restée un petit peu avec cette question. On ne lui a pas vraiment expliqué ce que c'était, ce diabète gestationnel. Et aujourd'hui, elle aimerait avoir des explications. Par exemple, savoir si le fait qu'elle ait perdu le bébé avant terme, très longtemps avant le terme, ça peut avoir un lien avec ce problème de diabète gestationnel.
Alors, 5 semaines de grossesse, c'est quand même très tôt dans l'évolution de la grossesse, ce qui peut faire penser à un diabète préexistant mais qui était méconnu. Le diabète gestationnel apparaît généralement entre la 24e et la 28e semaine. Il est diagnostiqué plus tardivement. En réalité, il est conseillé chez les femmes à risque de faire un dépistage très tôt, au premier trimestre, pour dépister justement ces diabètes préexistants, mais qui étaient méconnus.
Alors, si vous disiez personne à risque, c'est le cas pour Myriam, puisqu'elle a précisé en préparant cet entretien que son papa était diabétique, il était même décédé d'un diabète sévère. Donc, elle fait partie des personnes qui présentent des facteurs de risque, effectivement.
Effectivement. En fait, chez Myriam, on peut penser qu'elle avait un diabète, mais qu'elle ne le savait pas, parce que ça a été dépisté quand même très tôt. Et elle dit avoir perdu la grossesse tout aussi précocement, sans avoir même eu le temps de faire l'épreuve de diagnostic du diabète gestationnel qui lui avait été prescrite. Mmh. Donc, ceci fait penser qu'il existait un diabète pré-gestationnel, mais qu'elle ne le savait pas.
On va maintenant entrer en contact avec une auditrice de la région parisienne qu'on retrouve maintenant. C'est Patricia. Patricia, bonjour.
Bonjour, Carlo Paris.
Alors Patricia, vous avez 52 ans. Vous avez été diagnostiquée l'an dernier pour un prédiabète, c'est ça ?
Parfait.
Professeur Ndoumbaï, quand on parle de prédiabète, de quoi s'agit-il ?
Le prédiabète est une anomalie de la glycémie qui survient avant le stade de diabète. Le diabète vrai est diagnostiqué sur la base d'une glycémie à jeun supérieure ou égale à 1,26 g par litre. En millimoles par litre, ça correspond à 7 millimoles par litre. Chez les sujets qui n'ont aucun signe de diabète, il faut faire d'ailleurs un deuxième dépistage. Et si les deux glycémies sont supérieures ou égales à ce taux de 1,26 g par litre, on déclare le diabète. D'accord. Si c'est un sujet qui vient avec les signes, un seul dosage supérieur à ce seuil suffit pour poser le diagnostic.
Alors vous étiez en dessous, hein, Patricia, de ce seuil de 1,26.
Tout à fait.
Qu'est-ce que vous a recommandé votre médecin par rapport à ce prédiabète ?
Elle m'a prescrit de metformine depuis l'année dernière, que j'ai refusé. J'ai voulu traiter par l'alimentation et le sport. C'est-à-dire plus de sucre, manger que 200 grammes de féculents par repas. Je suis passée de 62 kilos pour 1,65 à 55 kilos.
Oui, donc là, vous êtes carrément mince. Au niveau de votre taux de diabète, quand votre glycémie, elle était à combien ?
En fait, on m'a découvert par rapport à l'hémoglobine glyquée à 6,08. Évidemment, j'ai fait tout ce qu'il y a fait parce que je ne voulais pas prendre les médicaments, le sport et puis le fameux 200 grammes de féculents par repas.
Oui.
Et je suis revenue depuis le 4 avril, puisque c'est la dernière consultation que j'ai eue avec la diabétologue, à 6,8 d'hémoglobine glyquée.
Qu'est-ce que vous pensez de ces taux, professeur Ndoumbaï, par rapport à ce que nous explique Patricia ?
Il faut savoir que le prédiabète, c'est un état intermédiaire entre la glycémie normale et la glycémie qui permet de dire qu'il y a un diabète vrai. La glycémie normale s'arrête à 1,10 g par litre à jeun. Et le diabète, je disais, c'est 1,26. Donc ces taux entre 1,10 et 1,26, on les appelle les anomalies de la glycémie à jeun et ça rentre dans le cadre du prédiabète. Ce prédiabète, généralement, donc j'insiste sur la glycémie à jeun parce que c'est le moyen le plus fiable pour dépister le diabète sucré. Les Américains utilisent l'hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée est comme une sorte de moyenne des glycémies sur les 3 mois qui ont précédé l'analyse. Ici, en Afrique, nous ne l'utilisons pas beaucoup comme critère diagnostique parce que tout ce qui peut perturber l'hémoglobine peut donner une interprétation fausse, peut donner des chiffres erronés de l'hémoglobine glyquée. Je parle des anémies qui sont très courantes dans notre contexte. Je parle de toutes les maladies hématologiques telles que la drépanocytose, que nous retrouvons également beaucoup dans notre contexte. Tout ceci fait que l'hémoglobine glyquée n'est pas encore utilisée dans notre contexte comme critère diagnostique.
Excusez-moi Patricia, vous avez une question par rapport à ce poids que vous évoquiez tout à l'heure. De quoi s'agit-il ?
En fait, je suis à 55 kilos et ça, c'est le poids que j'avais quand j'étais ado. Et je ne suis pas bien.
Vous avez envie de reprendre quelques formes, on va dire, c'est ça.
Voilà.
Professeur Maïmouna Ndoumbaï, en fait, ce qui est en train de demander Patricia, c'est est-ce qu'elle peut changer de régime alimentaire ? On ne dit pas faire un régime, mais changer de régime alimentaire pour prendre un petit peu de poids et passer à 62 kilos pour 1,65 m qui, disons-le, n'est pas du tout un surpoids, hein, très très loin de là. C'est vraiment la normale de chez normale.
Effectivement, si je calcule rapidement, son indice de masse corporelle doit être aux alentours de 20, ce qui est tout à fait normal. Effectivement, elle est dans la fourchette normale pour son poids par rapport à sa taille. Effectivement, quand on l'écoute, il semble qu'elle n'ait pas d'autres facteurs de risque. Comme elle dit qu'elle n'a pas d'hérédité diabétique, elle n'est pas en surpoids, elle adopte un mode de vie qui semble sain. Donc, il peut arriver que des sujets qui n'ont aucun facteur de risque développent quand même le diabète. on ne sait pas encore tout de cette maladie. Et ça peut même paraître injuste pour ces personnes qui se disent « mais j'ai tout fait pour l'éviter et je l'ai quand même ». Ben c'est comme ça, il y a des prédispositions individuelles, génétiques, qui font que telle personne va développer le diabète alors qu'elle n'a pas de facteur de risque. Maintenant, pour répondre à sa question, est-ce qu'elle peut reprendre du poids ? Mon conseil serait qu'elle se rapproche d'un professionnel de santé si elle souhaite prendre du poids de manière spécifique et sécurisée. Et il serait bénéfique pour elle de consulter par exemple une nutritionniste ou un diabétologue, parce qu'il lui faut des conseils personnalisés pour tenir compte de son prédiabète et éviter qu'elle ne déséquilibre et aller vers le diabète frais.
Voilà pour tous ces conseils. Un grand merci pour votre appel, Patricia. On a professeur Ndourmbaye, ce message Facebook de Sylvie. Elle explique qu'à 60 ans, elle a été diagnostiquée diabétique il y a 10 ans déjà. Et elle constate que la nuit, elle a fréquemment besoin d'uriner. Et elle demande simplement si c'est normal.
Alors Sylvie, on peut dire tout de suite, ce n'est pas normal. Les urologues disent que la nuit, la vessie dort. Donc quand on fait pipi beaucoup la nuit, ça veut dire qu'il y a une anomalie. Mais il faut distinguer deux choses. Est-ce que vous urinez des petites quantités d'urine et de manière très fréquente ? Est-ce que vous avez des brûlures mictionnelles quand vous urinez ? Ça s'appelle, en termes médicaux, la polakiurie. Ça, c'est un signe d'infection urinaire. Et puis, il y a autre chose, le fait d'uriner de grandes quantités d'urine, ça s'appelle la polyurie et c'est un signe de déséquilibre du diabète. Il est courant que des personnes atteintes de diabète ressentent cette polyurie, qu'on arrive plus à chiffrer la nuit, puisque c'est la nuit qu'elle est plus gênante. C'est le fait d'uriner plus fréquemment et en plus grande quantité. Et cela, comme je disais, peut être dû à une élévation de votre taux de sucre dans votre sang, parce que ça augmente, le rein va travailler plus pour l'éliminer, et ce faisant, va éliminer beaucoup d'eau. Donc ça entraîne l'émission plus fréquente, et en particulier la nuit. Donc il est important que Sylvie surveille son taux de glycémie et voit son médecin pour vérifier que le diabète n'est pas déséquilibré. Ça pourrait bien être le cas. Et à ce moment-là, il faudrait réadapter son traitement.
Consultez Sylvie, c'est donc le conseil. On part maintenant pour le Cameroun, Yaoundé. Retrouvez Kamden. Kamden, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour professeur.
Vous avez 44 ans. Vous avez une question sur le contrôle de votre diabète. À quelle fréquence est-ce que vous vérifiez votre glycémie ?
Pour le moment, je vérifie quand je veux. Mais au départ, le médecin me demandait de vérifier systématiquement tous les matins et tous les soirs.
Est-ce que vous prenez des médicaments pour ce diabète, Kamden ?
Oui, actuellement, je prends du metformine 500, 2 comprimés tous les matins et du Daonil 5 grammes. Je prends 2 comprimés matin et 2 comprimés soir.
Et vous avez un régime alimentaire, je veux dire un équilibre alimentaire particulier ?
Non, mais je m'arrange toujours à avoir des légumes à chaque repas.
Et vous avez constaté, Kamden, qu'il y a des changements qui s'opèrent quand vous mangez en dehors de la maison, c'est ça ?
Oui, c'est bien ça. Quand je suis hors de la maison, ma glycémie a tendance à faire un pic. Et quand je suis aussi à la maison, malgré les médicaments que je prends, je n'ai pas une stabilité au niveau des chiffres. Donc ma question, c'est de savoir, est-ce que lorsqu'on prend des médicaments, l'objectif visé, ce n'est pas d'avoir une glycémie stable ? J'oscille souvent entre 1,20 et 1,50, 1,60.
Professeur Ndourmbaye, de toute façon, au cours de la journée, en fonction de ce qu'on a mangé, la glycémie, elle doit changer forcément.
Forcément, la fluctuation de la glycémie peut être influencée par beaucoup de facteurs. Ça peut être l'alimentation, l'activité physique, les médicaments et même le stress. Donc la glycémie change d'un jour à l'autre et au cours de la même journée, ça peut changer plusieurs fois. On n'a pas un taux constant qui va être le même toute la journée et a fortiori sur plusieurs jours différents.
Est-ce que vous constatez aussi, comme notre auditrice Kamden, que vos patients, quand ils mangent, on va dire à l'extérieur, quand ils sont en voyage, quand ils vont au restaurant, ils ont plus de mal à contrôler leur glycémie ?
Oui, c'est un fait qui est très fréquent, car la glycémie, comme je le disais, fluctue. Peut-être qu'il est plus facile pour ces patients de contrôler leur glycémie dans leur environnement habituel, où ils peuvent faire des choix qui sont programmés, plutôt que quand ils sont à l'extérieur.
Et vous avez aussi, Kamden, une inquiétude particulière en ce qui concerne la santé de vos reins.
Oui, ma maman est diabétique. Elle a fini par une dialyse qui n'était pas très évidente. Et du coup, j'ai peur.
Le lien entre le diabète et la santé des reins, professeur, c'est vraiment une question très importante.
C'est une question très importante, très intéressante, parce que les reins font partie des organes qui sont menacés par le diabète. Il est important, pour éviter cette complication, de maintenir une glycémie, mais aussi une pression artérielle stable tout au long de la maladie. Parce qu'il n'y a pas que les diabétiques qui font des complications rénales, les hypertendus également, et puis d'autres personnes. Donc cela signifie qu'il faut contrôler rigoureusement la glycémie et la tension artérielle, prendre les médicaments comme prescrits, suivre un régime alimentaire équilibré, pratiquer une activité physique régulière. Il est également recommandé, si vous avez un suivi régulier, votre médecin traitant va surveiller régulièrement votre fonction rénale avec des tests sanguins et urinaires. Généralement, on fait un dépistage annuel. En cas d'anomalie, le dépistage est plus rapproché et il y a des médicaments qui sont prescrits justement pour protéger vos reins. Mais cela, il faut en discuter avec votre médecin.
Voilà tous ces conseils, Camden. Très bonne journée à vous. On va prendre une dernière auditrice en ligne de la République démocratique du Congo.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
Bonjour Daniela.
Bonjour madame.
Alors, plusieurs personnes de votre famille sont concernées par le diabète. Qui exactement, Daniela ?
Ma mère, mes grands-parents et quelques oncles et tantes maternelles toujours.
Et à cause de cela, eh bien, vous craignez à votre tour d'être touchée, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Alors, votre maman a en fait deux maladies chroniques puisqu'elle a ce diabète plus de l'hypertension. Vous aussi, Daniela, vous êtes hypertendue ?
Oui, je suis hypertendue.
Et vous êtes traitée pour cette hypertension artérielle ?
Oui, j'ai un traitement que je prends régulièrement.
Est-ce que vous avez fait, Daniela, des tests pour savoir si vous étiez vous-même diabétique ? Est-ce que vous avez été dépistée ?
Bon, chaque fois que je vais à l'hôpital, on me fait toujours des tests hein, pour savoir si j'ai l'hypoglycémie ou l'hyperglycémie, mais jamais.
Pour l'instant, tout va bien, on va dire. Est-ce que vous faites attention à votre alimentation ?
J'essaie de faire attention, d'éviter certains trucs.
Et en termes d'habitude de vie, est-ce qu'il y a des consommations particulières ? Je pensais en particulier, est-ce que vous consommez de l'alcool ?
Oui, je consomme de l'alcool.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet par rapport à cette consommation d'alcool ?
Bon, je tiens un bistrot, comme on l'appelle ici.
D'accord.
Je vends de l'alcool, donc je suis emmenée à boire souvent. Donc je dirais que je bois tous les jours et en grande quantité.
En grande quantité, ça veut dire, est-ce que vous buvez finalement parce que c'est l'occasion qui le fait ou est-ce que vous en ressentez un besoin au cours de la journée réellement ?
J'en ressens le besoin.
Est-ce que vous considérez que c'est un problème de santé, cette consommation d'alcool ?
Non, je ne trouve pas parce que je ne bois pas pour m'enivrer.
Vous buvez régulièrement sans avoir d'ivresse, c'est ça ce que vous dites. Et donc, si vous voulez, d'un point de vue moral, vous considérez qu'il n'y a pas de problème à cette consommation d'alcool. Par contre, évidemment, ça peut poser des questions en termes de santé par rapport à la quantité d'alcool que vous avalez au cours de la journée. Et en l'occurrence, quand on a des antécédents de diabète, professeur Maimounan Doumbaye, est-ce qu'il peut y avoir un lien entre consommation d'alcool et augmentation du taux de sucre dans le sang ?
Il n'y a pas de lien direct, mais il faut savoir que le fait de consommer de l'alcool, et surtout en grande quantité, peut avoir un impact négatif sur la santé en général.
Oui.
Donc, il est important de limiter cette consommation d'alcool.
Daniela, évidemment, on parle du diabète aujourd'hui, mais est-ce qu'à côté du diabète, vous avez parlé de l'hypertension tout à l'heure, vous avez d'autres problèmes de santé ?
Oui, récemment, j'ai eu des cailloux dans la vésicule biliaire. Et après l'opération, parce qu'on devait enlever la vésicule biliaire, on a fait une biopsie, on a dit qu'il y avait une tumeur au niveau du foie.
Est-ce que de ce fait, le médecin ne vous a pas donné des conseils quant à votre consommation d'alcool ?
Bien sûr qu'il a donné des conseils, mais on ne suit pas toujours tous les conseils du médecin.
Oui, ce n'est pas évident. Mais est-ce que vous avez essayé de réduire votre consommation ou pas vraiment ?
J'ai essayé. Et le moment où j'y arrive et le moment où je n'arrive pas.
Est-ce que vous en avez aujourd'hui envie d'arrêter ou le moment n'est pas encore venu ?
Envie d'arrêter, non. Mais j'ai envie de passer des jours, des semaines, des mois à ne pas boire, sauf que c'est un peu difficile.
Bah bien évidemment, quand on boit tous les jours et en quantité importante, on peut dire, hein, il y a vraisemblablement un très grand risque qu'une dépendance s'installe, professeur Ndoumbaye. Dans ce cas-là, il est important de se faire aider quand on veut réduire sa consommation.
Absolument. L'alcool attaque le foie, attaque le pancréas. Je disais, il n'y a pas de lien direct, mais c'est à travers la destruction du pancréas, ici, il existe ce qu'on appelle une pancréatite alcoolique, que la fonction d'équilibre de la glycémie peut être largement perturbée. Donc, en plus de détruire le foie et puis de créer cette dépendance, les troubles du sommeil et tout ce qu'on connaît. Donc, l'alcool peut être effectivement très, très, très nocif pour votre santé. Le fait que vous ressentiez le besoin d'en consommer tout le temps est déjà un signe de dépendance à l'alcool. Nous conseillerions à Daniela vivement de consulter un professionnel de santé pour préserver sa santé et limiter les dégâts.
Daniela, ce n'est pas du tout une question de morale, mais bien de santé. C'est important de faire attention à vous. Vous êtes jeune, hein, vous avez 33 ans, vous avez toute la vie devant vous. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je vais essayer.
Vous savez, ce sont les psychiatres. Hein. Alors, des fois, les gens se disent, oh là, les psychiatres, c'est vraiment pour les gens qui ont des problèmes énormes, c'est pour les gens qu'on désigne à tort comme des fous. C'est pas vrai du tout. Les psychiatres, ils vous aident à aller mieux. Les psychiatres, ils vous aident à trouver certains repères. Ils peuvent vous conseiller. Et ils sont aussi spécialistes de l'addictologie, de la dépendance. C'est pour ça qu'on peut se rapprocher d'un hôpital. On peut se rapprocher aussi de certains groupes de parole. Ça existe. Et on peut trouver une communauté qui vous aide et qui vous appuie pour essayer de vous sentir mieux accompagné. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Okay. Je vais le faire.
Donnez-nous des nouvelles, Daniela. On serait très contents tous hein, d'entendre de vos nouvelles. On vous dit un grand merci. Merci pour votre appel et aussi une musique. Hein. C'est avec votre choix musical qu'on va se dire au revoir. Dire au revoir à notre invité à Dakar. Au revoir, professeur Maïmounan Dourmbaye. Très, très bonne journée à vous.
Merci, au revoir, merci pour l'invitation.
Et un voyage dans le temps en RDC, puisque c'est avec Franco. Franco qui va nous accompagner jusqu'au prochain journal.
Ora baki ninye, ora baki nini mamu, ora baki ngana funda kayo, na mobali na yo, ora baki ngana salaka kisepe, na libala na bino. Madiluti kaye alobae Makamboye asalaka Aye bakate Babala balaye atambolaka Bato bamonakaye Bandakoye akontaka Bamiranda kwe fundakaye Naba kwenyo soye atelemaka Ba chauffeur taxi bamonakaye Bonani nya panza yo sango alobi Yo salaka ki se fe Nai moto na kote la kayo mamu eye Nai moto na ebi ba sekele mamu eye Lelo na komi moto mabeo mamu eye Oye bita ngwengi na kao mamu eye Oko kanisa ngai mamu na ke eye Ata ofingi nga inu mama mweye
Priorité santé, tout ça, ça fait un merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Ophélie Lassène, Louise Calédec, Didier Bleu et à Dakar, Alassane Bireba, également avec nous aujourd'hui Laurent Hérault. On se retrouve en direct lundi à partir de 9h10 temps universel. D'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.